Oh non, monsieur, avec Jupiter et Uranus en Sagittaire, je ne vois aucun cambriolage chez vous dans un avenir proche.
Vous êtes sûr, hein?
Oh, bah tout à fait sûr. Vous savez, les cartes ne mentent jamais, monsieur.
Pour partir tranquille, confiez plutôt votre maison aux professionnels Vérissure. Vérissure par Securitas Direct, numéro 1 européen des alarmes télésurveillées.
Par contre, je vois quelqu'un devant chez vous avec un pied de biche en ce moment.
Pardon? Pour une installation gratuite, appelez vite le 3112 ou rendez-vous sur verissure.fr.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Lundi prochain, le 15 juin, sera vendu aux enchères un florilège des trésors du château de Harrouët en Lorraine. L'occasion pour Franck Ferrand de s'intéresser à l'histoire de cette demeure et de la famille qu'il a fait construire. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline. Bonjour à tous. L'idée qui préside à cette vente publique est la suivante. Un château comme Harrouët coûte fort cher à entretenir et à rénover. Pour sauver l'essentiel et lui conserver tout son lustre, il peut être nécessaire parfois de sacrifier une partie des collections qu'il renfermait. La princesse Minnie de Beauvaucran est avec nous aujourd'hui. Elle a choisi quelques pièces majeures parmi les trésors que renferme la maison et elle les a confiées à une maison de vente française, il faut le souligner, l'étude de Maître Le Fur. Pour évoquer cette démarche et d'une manière plus générale, pour évoquer la question de l'entretien parfois difficile de ces châteaux qui sont une des grandes parures de la France, j'ai aussi convié le président de l'association La Demeure Historique, Jean de Lamberti.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Marie-Caroline sur la différence entre sacre et couronnement.
Je vois que Marie-Caroline sait manier la nuance. Pour le moment, je vous propose de nous rendre en Lorraine et de franchir les grilles d'une des plus charmantes demeures qui soit.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque je me promène dans une de nos belles régions, j'ai toujours l'œil sur une des petites icônes, vous savez, qui signe, généralement c'est une tour, hein, qui indique, qui désigne sur la carte la présence de châteaux. Ce n'est pas du fétichisme ou du snobisme ou la paresse d'un touriste en mal d'imagination. Les châteaux, à mes yeux, sont les plus parfaits témoins de notre histoire. En France, ils pullulent et ils nous rappellent tout à la fois la richesse du passé de notre pays et l'étonnante art de vivre qui s'y est développé. Alors, si d'aventure vos pas vous portent du côté de la Lorraine, et plus précisément de la Meurthe-et-Moselle, on est au sud de Nancy, sur la route d'Épinal, vous devez absolument faire halte à Harrouët, dont le château s'ouvre sur le village par de très belles grilles ouvragées. Oh, quand je dis de très belles grilles, elles sont l'œuvre de Jean Lamour, mais oui, Lamour, le génial ferronnier qui plus tard devait créer à Nancy les grilles mondialement célèbres de la place Stanislas. Ce château n'est pas l'œuvre de n'importe qui, puisque son architecte n'est autre que Germain Boffrand, un neveu de Hardouin Mansart. Germain Boffrand était premier architecte du duc de Lorraine, et c'est pour ce duc de Lorraine qu'il venait d'achever, au moment où il construit Harrouët, le somptueux château de Lunéville, le fameux Versailles lorrain. Alors, le château d'Harrouët porte depuis 1720 le nom de la famille qui l'a fait bâtir, les Crans. En effet, c'est Marc de Beauvaucran qui a construit la nouvelle, la brillante, l'élégante demeure sur les ruines du château des Bassompierre. Il est vrai que le site est charmant, l'écrin de verdure est à la mesure du joyau de pierre. Beaufranc n'est pas un débutant, ce n'est pas un inconnu du tout pour Marc de Beauvau, qui lui-même est grand écuyer du duc de Lorraine, puisqu'il a eu l'occasion de lui prouver son talent en réalisant pour lui l'hôtel de Cran à Nancy, place de la Carrière, c'est l'actuel siège de la cour d'appel de Nancy. Le château va présenter d'imposantes façades. On est vraiment dans un monument assez impressionnant. Imaginez trois ailes encadrées par des douves bordées de jardins à la française, dans un style qu'on pourrait croire, étant donné l'emploi des colonnes, des frontons, qu'on pourrait croire néoclassique, mais qui est bien antérieur à tout ça. On y viendra tout à l'heure, bien entendu. Ce château, Beauffranc a voulu en faire un peu son petit chef-d'œuvre. Il a voulu en faire un symbole du temps qui passe. Alors il y a quatre ponts pour symboliser les quatre saisons, 12 tours et tourelles pour évoquer les 12 mois de l'année, 52 cheminées pour les 52 semaines et puis, bien sûr, 365 fenêtres. Qui est le, j'allais dire, le, le destinataire ou le commanditaire de cette maison, ce Marc de Beauvaucran. Il descend de deux grandes familles angevines, les Beauvaux, qui sont une branche cadette des premiers comtes d'Anjou, et puis les Crans, qui sont, alors le plus célèbre, hein, c'est Pierre de Cran, qui est resté dans les annales pour avoir attenté à la vie du connétable Olivier de Clisson. Ça, ce n'est sûrement pas l'illustration la plus brillante de la famille, mais c'est une famille qui s'est imposée depuis très longtemps à la cour. La dernière héritière de cette famille épouse Pierre de Beauvau, et c'est comme ça que va naître cette famille de Beauvaucran. Ils s'installent en Lorraine au XVe siècle, tout simplement pour suivre leur cousin, les comtes d'Anjou, qui deviennent à l'époque duc de Lorraine. Alors, le Marc de Beauvau dont je vous parle est connétable de Lorraine, il est vice-roi de Toscane, prince du Saint-Empire, grand d'Espagne, il sera reconnu un peu plus tard prince français par Louis XV, ça a été d'ailleurs l'occasion d'une querelle, il suffit de feuilleter les mémoires du duc de Luynes pour voir à quel point ça a fait scandale, cette histoire. Ce qui a fait la grande fortune de Marc de Beauvau, c'est qu'il est un ami d'enfance de Léopold de Lorraine. Ils sont nés la même année, en 1679, on peut dire qu'ils ont été élevés ensemble. Ils ont reçu la même éducation et tous deux vont se signaler dans un certain nombre de batailles, car ce sont évidemment, ils s'illustrent à la pointe de l'épée. Ils se signalent notamment en 1695 lors de la bataille de Temesvar. C'est une de ces batailles, vous savez, qui contribue à repousser les Turcs hors de Hongrie. Alors, en 1697, il y a un changement colossal dans l'histoire de la Lorraine. Il faut peut-être que je vous explique ça. À la fin du XVIIe, on pensait que la Lorraine, en tant que territoire, en tant que duché autonome et même indépendant, était perdue sous influence française, le duché. On y a placé des intendants dans toutes les villes, avec pour rôle d'étouffer dans l'œuf toute tentative de résistance à ce pouvoir royal, ce pouvoir de Louis XIV, qui est en train de s'étendre. Sauf que Louis XIV a besoin de ménager le Saint-Empire dans la perspective de la succession d'Espagne, qui est en train de s'ouvrir à l'époque, et au moment de la paix de Ryswick qui met fin à la guerre de la Ligue d'Augsbourg en 1697, eh bien Louis XIV va consentir à ce que la Lorraine retrouve son indépendance, moyennant une neutralité certes, mais la Lorraine retrouve son indépendance, ce qui veut dire que le duc Léopold va devenir le duc Léopold Ier de Lorraine. C'était jusque-là un prince en exil. Eh bien, il va retrouver sa couronne. C'est suffisamment rare dans l'histoire pour être souligné, vous savez. Et sa mère, qui a porté cet enfant, si je puis dire, à bout de bras pendant toute sa vie, qui a espéré le remettre sur le trône de Lorraine, sa mère meurt au moment même où va avoir lieu cet accomplissement. Ça, c'est assez extraordinaire. Alors, Léopold a épousé la nièce de Louis XIV, la fille de monsieur, et l'idée c'est d'apaiser les tensions entre le royaume de France, bien sûr, et ce duché de Lorraine. Léopold néanmoins veut manifester sa pleine souveraineté, et c'est là qu'il va se lancer dans ces travaux extraordinaires, dans cet urbanisme à Nancy, dans la construction du château de Lunéville. C'est une période de paix pour la Lorraine, une période de prospérité. J'ai oublié quand même de vous dire que l'une des premières décisions que va prendre Léopold lorsqu'il revient à Lunéville, c'est de nommer son ami Marc de Beauvau, grand écuyer de Lorraine avec la situation de connétable. Alors qui est-il ce Marc de Beauvau? C'est ce que je vous propose de voir dans un instant.
Sur Europe 1, un extrait du concerto Brandebourgeois numéro 3 de Jean-Sébastien Bach. On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur le château de Harouët en Lorraine et sur Marc de Beauvau.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire en Lorraine, cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez le destin de Marc de Beauvau.
Et oui, c'était un homme aimable, spirituel, Marc de Beauvau, excellent diplomate, d'une élégance vantée par tous les chroniqueurs. Et en 1704, il épouse la charmante Anne-Marguerite de Lignéville, qui était fille d'honneur de la duchesse de Lorraine et qui bientôt, disons-le, va devenir la favorite du duc de Lorraine. Ils n'en auront pas moins ensemble 20 enfants. Alors, Il faut imaginer Marc de Beauvau profitant de tous les plaisirs de la vie. D'abord, c'est un grand collectionneur qui va réunir une des plus riches collections de Lorraine, dans un pays qui, encore une fois, je vous l'ai dit, est en pleine prospérité. Enfin, je dis un pays, dans un duché qui est en pleine expansion à cette époque. Ce sont près de 400 tableaux qui rejoignent à l'époque les collections de Marc de Beauvau. Il y a là des Mignards, des Poussins, mais aussi des Canaletto et des Rembrandt, enfin, etc. Vraiment des choses absolument extraordinaires. Et le péché mignon de cet homme, ça, je dirais même que c'est sans doute plutôt sa faiblesse, c'est la passion du jeu. Ça n'a rien d'extraordinaire à l'époque, puisqu'on joue considérablement et l'on joue gros, que ce soit à la cour ou à la ville, et même, comme on peut l'imaginer, à la cour de Léopold de Lorraine. Au début, Marc de Beauvau s'est intéressé au billard, vous savez, mais sauf qu'à l'époque, on misait au billard. Hein. Et puis, il a mis en jeu d'importantes sommes au péril de sa fortune, et il a fallu à deux reprises que le duc Léopold interviennent pour renflouer son ami. Ça se faisait, là aussi, ça c'était assez général, c'était assez fréquent. Mais évidemment, ça ne facilite pas la vie de la famille. Marc de Beauvau va s'installer en Toscane entre 1737 et 1749. Et alors là, il découvre, j'allais dire, il ne manquait plus que ça, les courses hippiques qui vont le passionner. On peut dire vraiment, là, on peut parler d'une passion. Vous savez que Marc de Beauvau fait partie de ceux qui auront formalisé, qui auront mis à la mode les courses et qui auront créé toutes les règles du sport hippique. C'est une passion qui va causer sa ruine et qui va peser, disons-le, sur une partie de sa descendance. Alors parlons de sa femme, cette fameuse Anne Marguerite, la favorite du duc de Lorraine. Alors, il se trouve que la mère de la duchesse, donc elle aurait toutes les raisons de se plaindre de la favorite de son gendre, hein, la mère de la duchesse, c'est la princesse Palatine, la belle-sœur de Louis XIV. Et voilà ce que nous dit la princesse Palatine à propos d'Anne Marguerite de Beauvau. Oh, ce n'est pas une beauté régulière, mais elle est remplie d'agréments. Elle en a même plus que si sa beauté était plus parfaite. Elle a la plus belle taille du monde, une belle peau de belle couleur. Elle est fort blanche. Ce qu'elle a d'enchanteur, c'est la bouche. Ses dents sont admirables. Elle rit d'une façon charmante et se conduit avec ma fille avec beaucoup de politesse et d'égard. Vous voyez, après tout, j'allais dire, tout le monde est content dans cette histoire. En 1709, la liaison n'en est pas moins révélée au grand jour. C'est un changement de statut, évidemment, pour Anne-Marguerite, mais d'une certaine manière aussi, disons-le, pour son mari. La princesse Palatine commente « Quand un jeune prince est avec une femme jeune et belle 24 heures, ça, il n'y est pas pour enfiler des perles », écrit-elle. Alors, au-delà de la relation charnelle, Anne-Marguerite est également l'unique confidente du duc. Elle va devenir extrêmement influente dans cette cour de Lorraine. Et on peut dire que le couple Beauvau-Cran prend à l'époque une importance très considérable. Ce que je dis là est intéressant par rapport à ce qu'on va raconter tout à l'heure sur un des objets de la vente. D'ailleurs, je vais vous en parler dans un instant, si vous voulez, sur ce qu'on appelle l'épée du connétable de Lorraine. Alors, ce sont eux qui font donc rebâtir ce somptueux château à Arouet. Arouet, c'est le guet du seigneur en patois lorrain. Alors je demanderai tout à l'heure à Ménie de Beauvau de nous expliquer un peu d'où vient finalement la magie de cet endroit, parce que c'est un endroit qui est très très particulier, très spécial. Je pense que l'extraordinaire végétation de cette petite région qu'on appelle le Saintois, où coule le Madon, qui est un affluent de la Moselle, à cet endroit on peut passer à gué, le Madon. Je pense que tout ça n'est pas étranger, bien entendu. C'est un lieu qui a été toujours fortifié, parce que on est sur un seuil là, hein, on est sur un passage, un lieu de passage de tous les envahisseurs possibles et imaginables. C'est pour ça que la terre est devenue une baronnie. La terre est revenue après l'extinction de la lignée des Arouet. La terre est revenue par alliance au Bassompierre. Et là, la famille s'installe, on va dire, sur ces terres au XIVe siècle. Elle va transformer la bâtisse en un véritable château Renaissance. Et c'est dans ce château que va naître le célèbre marquis François de Bassompierre. Vous savez, Bassompierre était non seulement un grand soldat, non seulement un fin diplomate, mais c'était l'ami d'Henri IV. Et c'était pour nous, c'est très intéressant pour nous qui faisons de l'histoire et souvent de la petite histoire, c'était un chroniqueur hors pair qui racontait la vie à la cour d'Henri IV, de Marie de Médicis, etc. Donc c'est assez passionnant. Alors, il se trouve que ce Bassompierre va être après, bien après la mort du roi, du temps de la minorité de Louis XIII, il va être impliqué dans un certain nombre d'affaires. Et puis alors surtout, il trempe en 1630 dans la journée des dupes. Et ça, ça va lui valoir 12 ans d'emprisonnement. Il est embastillé et il va mourir en laissant le château dans un bien piteux état. Ce qui vous explique que lorsque la famille de Beauvau met la main sur le marquisat d'Arouet en 1719, il faut tout rebâtir, tout reconstruire, reprendre les choses en quelque sorte à zéro. C'est bizarrement pour Arouet, alors que je pense que pour les contemporains, les gens se disaient bah, « ça y est, c'est fini, c'est une maison qui n'existera plus », c'est en vérité le début de l'âge d'or.
Vous écoutez Au cœur de l'histoire et n'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages et vos questions sur la page Facebook de l'émission par mail europe1.fr, via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Vous restez avec nous sur Europe 1. Nous retournerons avec vous, Franck Ferrand, au cœur du château de Arouet en Lorraine.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire en Lorraine ce vendredi. Et Franck Ferrand, nous vous retrouvons au cœur du château de Arouet.
Alors pour, vous aurez compris, j'imagine, que Marc de Beauvau avait avec le duc Léopold des relations très privilégiées, quasiment fraternelles, il faut bien le dire. Mais surtout, Marc dispose d'un privilège unique, celui de porter l'épée de son souverain dans les cérémonies officielles. Ça n'est pas n'importe quelle épée, bien entendu, c'est un symbole de souveraineté. Alors l'épée, l'objet lui-même, a été commandé par le duc de Lorraine entre 1725 et 1727. Et elle est fabriquée par Simon Gallien que connaissent bien les spécialistes d'orfèvrerie, puisque c'est un des grands orfèvres de Paris. On est donc en 1728. On connaît la date grâce au poinçon de Jurande. C'est comme ça qu'on procède généralement. Il y a un petit M couronné. À chaque année correspondait une lettre. Et il se trouve que la lettre M, c'est la lettre de 1728. Alors, cette épée, elle a été réalisée à l'ancienne, si je puis dire. C'est assez amusant d'ailleurs de voir un objet qui date du premier tiers du XVIIIe siècle et qui est conçu exactement comme si on était au XVe siècle, avec les formes mêmes du XVe siècle. Quand on dit qu'on a commencé à s'intéresser au passé, au Moyen-Âge, etc., sous Louis-Philippe et sous Napoléon III, les auditeurs sont habitués à m'entendre dire ça, mais c'est une erreur. On s'y est intéressé beaucoup plus tôt. Et là, en l'occurrence, on va faire une sorte d'objet historique de dimension extraordinaire, puisque la garde fait 34,5 cm sur 36 cm de hauteur, une lame de 90, quasiment un mètre, on va dire, hein, avec un poids de près de 3 kg. Le pommeau est rond, avec la garde en vermeil ciselé sur les deux faces des emblèmes de Lorraine, la croix d'Anjou, qu'on appellera plus tard évidemment la croix de Lorraine, et puis l'alérion d'argent, qui est une sorte d'aigrette. Le fourreau de bois est recouvert de velours rouge. Il est orné des mêmes emblèmes que le pommeau de l'épée. Et tout ça, à l'époque, avait quand même coûté 2300 livres. C'était un objet très important. Or, l'objet en question est livré au début de l'année 1729. Et il se trouve que Léopold meurt à 49 ans. Il meurt au château de Lunéville en mars 1729. Il avait contracté une pneumonie au château d'Arouet, justement. Et donc, l'épée vient d'être livrée, et c'est assez bizarre, mais la première utilisation de l'épée, ça va être l'épée de parade au moment des pompes funèbres, hein, de la cérémonie d'obsèques, de l'enterrement du duc de Lorraine. Elle sera présentée là pour la première fois aux côtés des autres symboles de la souveraineté lorraine. Alors, le manipule, c'est le bâton ducal, si vous voulez, une sorte de sceptre, l'étendard de Lorraine en taffetas vert, rehaussé d'une croix en soie rouge. Et puis, on peut dire que l'épée, bien entendu, par la suite, va servir à tous les ducs de Lorraine. Alors, on va y venir dans un instant, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à la mort de Léopold, c'est sa femme qui devient régente. Entre parenthèses, c'est elle d'ailleurs qui va se charger de régler l'épée à Gallien. Et bientôt, quand je dis bientôt, en 1737, la Lorraine passera dans les mains du beau-père de Louis XV, c'est-à-dire de Stanislas Leszczynski. Vous savez qu'on est au moment de la guerre pour la succession au trône de Pologne. Louis XV s'est arrangé avec le parti du roi Auguste III de Pologne pour que les duchés de Bar et de Lorraine soient cédés à son beau-père, à Stanislas Leszczynski, le père de la reine Marie Leszczynska. Et évidemment, il y a une condition, c'est qu'à la mort de Stanislas, la Lorraine fasse rétrocession à la France. Et c'est comme ça que 30 ans plus tard, la Lorraine est devenue définitivement française. Alors ça ne doit pas nous faire oublier ça. évidemment pas nous faire oublier la personnalité de Léopold Ier, qui a été ce premier grand-duc de Lorraine, qui a cru en quelque sorte à la mission qu'on lui avait donnée tout petit, à une époque où il était encore en exil. Le plus bel hommage, l'épitaphe, l'éloge funèbre le plus réussi de Léopold, il est signé de Voltaire, qui nous dit « Il est à souhaiter que la dernière postérité apprenne qu'un des moins grands souverains de l'Europe a été celui qui a fait le plus de bien à son peuple. Il trouva la Lorraine désolée, déserte, il la repeupla, il l'enrichit. Il l'a conservée toujours en paix pendant que le reste de l'Europe a été ravagé par la guerre. Il a eu la prudence d'être toujours bien avec la France et d'être aimé dans l'Empire, puisqu'on est sur des terres qui évidemment sont sous influence du Saint-Empire. » Sa noblesse, ajoute Voltaire, réduite à la dernière misère, a été mise dans l'opulence par ses seuls bienfaits. Il mettait dans ses dons la magnificence d'un prince et la délicatesse d'un ami. Sa cour était formée sur celle de France, donc elle lui ressemblait d'une certaine manière. On ne croyait presque pas avoir changé de lieu quand on passait de Versailles à Lunéville. Aussi a-t-il goûté le bonheur d'être aimé, et j'ai vu longtemps après sa mort ses sujets verser des larmes en prononçant son nom. La princesse Minnie de Beauvaucran et Jean de Lamberty sont avec nous. Nous les retrouvons dans un instant pour évoquer Arouet, pour évoquer Marc de Beauvau, pour parler de l'épée, de tout ça. Bref, nous parlons de Lorraine aujourd'hui.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Château de Arouet et la famille de Beauvaucran sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, la propriétaire du château de Arouet, la princesse Minnie de Beauvaucran, et le président de la demeure historique, Jean de Lamberty.
Alors il faut peut-être commencer par Voltaire, puisque je citais Voltaire évoquant la mémoire de Léopold de Lorraine. Voltaire a un lien avec votre maison, Minnie de Beauvau. Il a passé du temps à Arouet, il faut le dire. D'ailleurs, c'était son nom de famille, lui, Arouet, mais ça ne s'écrivait pas du tout de la même façon.
Exactement. Et Voltaire a en effet habité à la maison, si je puis dire, entre Lunéville et Arouet, comme vous avez très bien expliqué la proximité de liens et géographiques. Donc nous avons toujours été très proches. Et Voltaire habitait à la maison, et à ce moment-là, comme Voltaire avait toujours besoin d'argent, il y a eu un emprunt qui était réservé au seul Lorrain. Et puisque Voltaire habitait à Arouet, il s'est basé sur le fait que son patronyme était Arouet, écrit tout à fait différemment.
Et à l'époque, on ne faisait pas très attention à l'orthographe des noms propres. Hein, donc...
Pour bénéficier de cet emprunt qu'il a eu, en fait. Et ça, ça fait partie du génie de Voltaire, bien entendu.
Arouet fait partie de ces maisons, il s'est passé des choses, en quelque sorte. Hein. Je parlais de ce coup de froid pris par Léopold.
Et j'étais très émue quand vous avez parlé, fait un si beau résumé, où j'ai beaucoup appris d'histoire sur Arouet. Mais un des charmes de la maison est que, justement, Arouet a toujours vécu des hauts, des bas, des richesses au moment du siècle d'or de la Lorraine, des moments de ruine, parce que le propriétaire était un grand joueur, comme vous l'avez très bien dit, mon ancêtre, le prince Marc de Beauvau. Il avait la chance à ce moment-là d'avoir ses dettes payées par le duc Léopold. Les temps ont changé.
Eh oui, là, il n'y a plus de duc pour régler les dettes.
C'est plus compliqué.
Vous devriez peut-être faire une petite lettre au préfet de Lorraine, peut-être.
Écoutez, en tout cas, je souhaite qu'il s'intéresse à mon cas.
Jean de Lamberty, c'est un problème essentiel que de entretenir toutes ces maisons qui sont des châteaux privés. Alors, il faut bien expliquer ça à tous nos auditeurs, parce qu'il y en a qui sont très au fait de tout ça, bien sûr, mais il y en a d'autres qui l'ignorent. Il faut savoir qu'une très grande partie du patrimoine architectural français, je parle essentiellement là des châteaux, évidemment appartient à des familles privées et que c'est une charge considérable pour ces familles. Alors bien sûr que c'est un privilège et c'est un bonheur de vivre dans ces maisons-là, mais c'est aussi une charge considérable et qui parfois devient même insurmontable.
Alors avant de répondre à votre question, je vais dire toute ma fierté en tant que président de la demeure historique et Lorrain, parce que je suis aussi Lorrain, de tout le travail et de rayonnement que Minnie de Beauvau a donné à Arouet. Nous sommes tous très très fier de lire tout ce qui se passe à Rouen dans le domaine d'exposition, de musique, etc. Et donc ce rayonnement...
C'est une maison qui vit, en fait.
Vous avez évoqué le rayonnement au XVIIIe siècle, mais le rayonnement au XXIe siècle est toujours le même. Et ça, c'est vraiment sous l'impulsion de la princesse de Beauvaucran. Alors, effectivement, aujourd'hui, tout le décalage avec ces monuments historiques, notamment ces grands châteaux comme à Rouen, est effectivement déclenche des difficultés et des questions. Vous avez à peu près la moitié des monuments historiques qui appartiennent à des propriétaires privés, mais parmi ceux-là, nous estimons qu'il y a environ 500 ou 600 châteaux de la taille de celui d'Arouet en France, et ceux-là sont d'une très grande fragilité. Et parmi ceux-ci, on peut dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y en a une dizaine à vendre, ce qui est effectivement très problématique pour le devenir du patrimoine national.
Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'un certain nombre de ces maisons, évidemment un petit nombre, mais un certain nombre de ces grandes maisons avaient conservé son mobilier, ses décors. Je pense que ça a été pendant longtemps le cas du château de la Roche-Guyon, du temps de la Rochefoucauld. C'était le cas du château du Marais, par exemple, qui était tout à fait extraordinaire. Propriété de Violette de Talleyrand, que j'avais eu la chance de voir avec tout son mobilier intact. C'était incroyable. On pense à une maison, évidemment, et nous la citons souvent. Peut-être la plus belle maison de France, on en parle souvent à ce micro, c'est Vaux-le-Vicomte, etc. Ces maisons avaient du mobilier, alors que dans le cas de Vaux-le-Vicomte, c'est pas tout à fait vrai, puisque c'est du mobilier qui avait été racheté en grande partie, mais en tout cas pour les autres, c'était du mobilier qui était là quasiment depuis l'origine, qui fait partie en quelque sorte de la splendeur des lieux. Et évidemment, on ne peut toujours qu'être un peu, comment dire, on a le cœur serré lorsqu'on voit une partie de ce mobilier dispersé en vente publique. Alors vous allez me dire, c'est la vie des objets aussi. Hein.
C'est la vie des objets et c'est avant tout la vie des monuments. Vous l'avez rappelé vous-même, des monuments de la qualité d'Arouet ont vécu. Ils ont démarré au Moyen-Âge, ensuite ils ont été reconstruits pour trouver leur splendeur actuelle au XVIIIe siècle. Et évidemment, tous les décors intérieurs autant que le mobilier ont évolué avec ces évolutions de l'extérieur. Et aujourd'hui, nous sommes, quand on est à la tête ou quand on a la charge de ces monuments, confrontés à des choix parfois cornéliens, c'est-à-dire que lorsqu'il faut sauver les murs, et c'est à cela qu'on pense, ou les toits, on est évidemment confronté à faire ces choix un peu la mort dans l'âme.
Ce qu'il faut dire, princesse, c'est que vous avez beaucoup travaillé, vous, sur les restaurations. Ça fait, vous avez hérité cette maison, vous étiez toute jeune.
En effet, j'ai hérité à la mort subite de mon père en 1982. Et j'ai mis toute ma passion et j'y ai consacré une partie de ma vie à Arouet. Et je l'ai fait avec grande fierté, car c'est un privilège avant tout. C'est aussi un devoir. Et j'ai essayé le mieux possible de remplir ce devoir que je considérais le mien, qui était de poursuivre dans une région touristique difficile, dans une période difficile, et je crois que j'ai apporté, grâce aux expositions notamment, avec M. Givenchy et M. Venet, des expositions avec Baccarat,
Je crois
que j'ai apporté énormément de rayonnement.
De vie et de rayonnement, ça c'est absolument incontestable. Et des travaux aussi, vous avez...
Et j'ai fait des travaux, j'ai fait les travaux que j'ai pu faire, et j'ai eu une période aussi de renaissance, lorsque Gérard Longuet était président de la région, et où les travaux se sont faits sans aucun souci. Et ce que j'apprends, c'est qu'effectivement, les périodes de renaissance, eh bien, il y a toujours des hauts et des bas dans la vie.
Et oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut peut-être décrire un peu cette magnifique maison pour ceux de nos auditeurs qui ne la connaîtraient pas et qui seraient amenés à vouloir la visiter, du reste. Qu'est-ce qu'on peut y trouver ?
Écoutez, si je peux me permettre, encore aujourd'hui, 32 ans plus tard, chaque fois que je rentre dans la cour du château, j'y rêve. Donc, mon devoir et ma passion a été qu'à travers Arouet, je puisse montrer aux amis, aux visiteurs, aux Lorrains eux-mêmes, l'art de vivre à la française, en les recevant. Donc il y a une magnifique... Il y a quatre tours, donc c'est superbe. Et c'est entouré de douves, et dans les douves, il y a des cygnes que l'on voit alors à toutes les heures de la journée ou du soir. C'est absolument magnifique de voir ces cygnes, qui sont par ailleurs des bêtes assez méchantes. Mais de les voir se promener au coucher du soleil ou en pleine lune, c'est extraordinaire. Et je vous dis, encore moi, je suis émue par cet endroit.
Il y a un salon chinois à Beauvau.
Il y a un magnifique salon
chinois. Qui a été décoré par Piment.
Oui, absolument. Chaque tour, il y a quatre tours, n'est-ce pas ? Et chaque tour est un décor différent. Et nous déjeunons et dînons souvent dans une des quatre tours, également dont le plafond a été décoré par pilement, tout en lierre. Ça a l'air d'une serre et ça, c'est absolument magnifique. Et la tour qui est ouverte au public est splendide. Ça a été la première restauration que j'ai faite. Et je l'ai fait grâce à un mécénat américain. Les Américains ont toujours été d'une telle générosité avec notre patrimoine français. D'abord, ils ne demandent rien en retour. Ils adorent la France. Et je pense qu'il faut leur donner toute l'attention et la reconnaissance.
Ah oui, parce que quand il y a des mécènes, il faut savoir
les remercier.
Oui.
Il faut savoir les remercier. Et moi qui ai eu l'expérience avec eux, ce sont des gens extraordinaires.
Il y a au château d'Arouet le grand mobilier de Louis XVIII pour Saint-Ouen.
Absolument, ceci prouve combien le mobilier voyage.
N'est-ce pas ?
Étant donné qu'il était fait pour Saint-Ouen, qu'il est arrivé par mariage au château d'Arouet, et c'est le propre de la vie du mobilier.
Et puis alors, il y a encore cette épée du connétable, cette épée du grand écuyer de Lorraine. On va y venir dans un instant, on va en parler de cette épée, et puis ça va nous permettre de dire un mot de la vente, bien sûr.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur du château de Arouet en Lorraine cet après-midi, vos invités Franck Ferrand, la propriétaire du château, la princesse Minnie de Beauvaucran, et le président de la demeure historique, Jean de Lamberty.
Il y a dans cette vente qui aura lieu lundi, une pièce tout à fait extraordinaire, parce que c'est une pièce historique. Il est très rare qu'un très grand objet historique passe en vente. Là, en l'occurrence, c'est l'épée du grand écuyer de Lorraine, l'épée du connétable, comme on l'appelle. Je la décrivais tout à l'heure. Elle est très symbolique, puisqu'elle a incarné pendant plusieurs décennies la souveraineté, l'indépendance de la Lorraine. Je pense que les Lorrains y sont attachés. Est-ce qu'on sait ce qu'elle va devenir, princesse?
Franck, je comprends tout à fait. Je voudrais dire sur votre antenne que je comprends tout à fait l'émoi des Lorrains.
Oui.
C'est justifié. Ceci dit, ils viennent de la découvrir parce que
oui.
Moi-même qui faisais des visites, je peux vous dire qu'ils regardaient plus les photos de famille que l'épée. Néanmoins, je comprends que symboliquement, ce soit leur vase de soissons. Ceci dit, l'épée de famille du grand connétable de Lorraine, donc le constructeur de château, mon ancêtre, je suis d'accord, est resté dans la famille parce que, comme vous l'avez si bien dit, la Lorraine après, a été rattachée à la France. Si la Lorraine était restée indépendante, elle aurait été dans une autre famille. Donc, moi, j'ai été la gardienne, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, de cette épée. Mais je voudrais dire que, d'abord, c'est de plus en plus difficile d'avoir un objet unique de cette importance chez soi dans une demeure privée. C'est quand même une responsabilité énorme.
Mais on a vu le cas tout à fait récemment avec la table de Téchen qui était au château de Breteuil, hein, qui était également un objet emblématique, très important. Et
bien entendu, il y a un moment où, pour des questions de gardiennage, d'assurance, de préservation, des objets de cette importance et de ce symbole, elle est surtout symboliquement très importante.
Bien sûr, oui, bien sûr, oui.
Ce genre d'objet, à mon avis, a sa place dans un endroit qui est moins sensible que le château d'Arouet, propriété privée actuellement.
Bien sûr. Alors, on a bien compris votre démarche. Il s'agit de vendre un certain nombre de pièces, une quarantaine de grands objets, pour donner au château les moyens de continuer à vivre et à rayonner. C'est bien ça, la démarche.
Au départ, c'était la démarche. Et vous savez, en ce moment, les démarches changent de heure en heure. Mais au départ, c'était...
Vous dites d'heure en heure parce que l'État est intervenu dans cette affaire et a classé un certain nombre d'objets.
Je suis dans une situation qui est en train de faire l'histoire, si
mais
je
oui.
puis dire. Donc, qui va très bien avec les hauts et les bas de la famille Beauvau. À savoir que... j'avais obtenu entre 2007 et 2013 tous les passeports d'exportation. Comme son nom l'indique, passeport, c'est la libre circulation des objets d'art dans le monde entier pour une durée permanente. Et j'ai eu l'étonnement, le 5 juin, d'avoir un coup de téléphone me disant que les objets provenant du château de Saint-Ouen, se trouvant au château d'Arouet, pour lequel j'ai été le gardien, si je puis dire, jusqu'à maintenant, allait être bloqué dans la vente en faisant appel de la loi de 1913, loi bien entendu bien connue en 2005 à 2013, les classant monument historique.
Alors, d'un point de vue concret, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus sortir du territoire, c'est ça l'idée ?
Exactement, Franck.
Oui, donc ils peuvent être vendus, mais forcément, les enchères ne peuvent pas être les mêmes que s'ils pouvaient être exportés. C'est une évidence.
Beaucoup plus difficile.
Beaucoup plus difficile. Et est-ce qu'on a une idée ? Est-ce que vous savez, Jean de Lambertis, ce qu'il serait question de faire ? Est-ce que l'État veut faire une préemption sur ce mobilier ?
Ça, vous devez demander au service de l'État. Moi, ce que je voudrais dire au sujet d'Arrouet et de l'affaire, on va l'appeler comme ça, l'affaire d'Arrouet, et qui est tout à fait symptomatique, je crois que ça nous oblige tous, les acteurs publics ou privés de la conservation et de la transmission du patrimoine, de réfléchir ensemble. Et je regrette, je l'ai dit à la ministre de la Culture, qu'il n'y ait pas dans son projet de loi du tout d'aspect relatif à celles et ceux qui, comme Minnie de Beauvau, ont la charge de ce patrimoine.
C'est ça, il faut les aider.
Et si vous voulez, récemment dans la loi Macron, nous avons essayé de passer quelques amendements pour aider à assouplir ce travail. Et à chaque fois, nous avons été, ces amendements ont été rejetés. Donc il y a un problème. Nous espérons au moins que l'épisode d'Arrouet, dont nous espérons tous qu'il se terminera positivement pour tout le monde, pour le château d'Arrouet, pour sa propriétaire talentueuse actuelle et puis pour les successeurs, puisse être l'occasion d'un vrai débat public.
Et nous l'attendons depuis longtemps, ce débat. Voilà, moi, j'en parle depuis 10 ans.
Mais je regrette, Franck, j'ai écrit à la ministre de la Culture vendredi dernier pour avoir un entretien en urgence avec Minnie de Beauvau et d'autres élus pour parler du sujet. Et je regrette infiniment, je n'ai pas eu la moindre réponse à ce jour.
Oui, c'est peut-être
dans
le feu de l'action, peut-être.
J'espère qu'elle nous écoute.
Oui, il y a sans doute des conseillers de la rue de Valois qui écoutent cette émission, on veut bien le croire. Au moins en podcast, parce qu'à cette heure-ci, ils ont peut-être autre chose à faire. En vérité, cette question pose au-delà même, et ça, ça vous concerne, vous, Jean de Lambertis, à la demeure historique, ça pose la question d'une sorte de grande fondation qui permettrait justement d'aider un certain nombre de dépositaires, parce que je pense qu'il faut comme appeler ainsi les propriétaires de ces très grandes maisons, à sauver le patrimoine, à nous aider, à aider la France à sauver ce patrimoine, sans forcément que l'État intervienne. Je pense par exemple à une sorte de National Trust à la française. Il faut peut-être expliquer à nos auditeurs ce que c'est que le National Trust en Grande-Bretagne.
National Trust en Grande-Bretagne, c'est une énorme fondation qui aliène, qui reçoit des monuments en donation et qui ensuite les gère dans un différent scénario. C'est un rêve souvent évoqué d'avoir un National Trust à la française. Je suis pour ma part enclin à faire le distinguo entre un National Trust qui aurait la possession des monuments eux-mêmes, parce que il faut une âme, il faut un pilote, il faut quelqu'un, un gardien ou une gardienne du monument, comme le fait admirablement Minnie de Beauvau à Arrouet. Et ça ne peut pas être un être, j'allais dire, sans âme, qu'est une fondation. En revanche, et nous y travaillons ardemment, un dispositif de type fondation pour posséder et mettre en dépôt des objets, ça c'est effectivement une orientation qui est tout à fait naturelle et que certains d'entre nous ont déjà mis en œuvre, mais qui mériterait sans doute une certaine impulsion.
Il avait été question il y a quelque temps d'une dotation qui pourrait venir justement des jeux, et notamment du loto par exemple. Alors je crois que ça avait intéressé pas mal Bercy, le ministère des Finances, mais que finalement la dotation en question n'est jamais venue vers le patrimoine. Bref, d'une façon générale, lorsque cette vente sera passée, que l'événement sera retombé, Minnie de Beauvau, parce qu'au moment où nous avons prévu de faire cette émission, il n'était pas question de tout ça, ça n'existait pas du tout, il n'y avait pas ce problème, si je puis dire, qui fait entrer notre émission aujourd'hui dans l'actualité. Quel sera l'avenir d'Arrouet ? Qu'est-ce que vous voulez quels sont les projets, notamment de restauration ?
Écoutez, bien entendu, j'espère que les émotions vont se calmer. Ça, c'est la chose la plus importante. J'espère avoir le courage peut-être de tourner la page. Le plus important maintenant, c'est que la justice soit faite à ma famille, et que l'on reconnaisse que des propriétaires privés, quels qu'ils soient, c'est-à-dire que je ne parle pas de moi, nous faisons ce que nous faisons avec la plus grande passion, que le public aime le fait qu'il y ait les erreurs, la bicyclette du petit-fils qui traîne dans la cour, le ballon de football, ça fait partie de la vie de la maison. Et si, je pense que si on fait de telles difficultés, il est très très difficile de pouvoir demander à une jeune génération de reprendre si en fait on est dans une situation de non-confiance et conflictuelle.
Oui. Là, je crois qu'il est important que, comme on dit, que tout le monde se mette autour de la table et que l'on comprenne bien que le but, c'est de sauver tous ces trésors, de les sauver pour tout le monde, parce que effectivement, c'est une propriété privée dont on parle, mais le patrimoine qu'elle représente, la beauté, le lieu de visite, le lieu de mémoire, ça appartient évidemment à tout le monde, aux Lorrains en particulier pour ce qui est du château d'Arouet, mais à tous les Français, et peut-être même au-delà, on peut dire à toute l'humanité. Il faut essayer d'arriver à comprendre ça et sortir effectivement des conflits, me semble-t-il. Vous avez parfaitement raison de le souligner. Il y avait un Marc de Beauvau qui a présidé la demeure historique, je crois, du reste, non?
Et oui, c'est le père de Minnie de Beauvau que, j'avoue, je ne connaissais pas, ou très peu, et le hasard ou le destin a fait qu'un deuxième président lorrain est apparu dans cette demeure historique qui a fêté ses 90 ans l'année dernière.
La vente, quoi qu'il arrive, a lieu ce lundi, 15 juin, à l'hôtel Drouot, chez Maître Le Fur. Je voulais parler d'un ouvrage qui s'appelle « Arouet, demeure des princes de Beauvaucran » de Christiane de Nicolas Mazry et Jean-Bernard Naudin, qui est un très très beau livre aux éditions de Lieuze, avec des photos magnifiques. Je ne sais pas s'il est encore disponible. « La consolation d'Arouet », ça c'est un joli petit ouvrage.
Un recueil
Daniel
merveilleux.
Daniel Rondeau et Alberto Valli.
Absolument.
C'est toute la poésie d'Arouet, et au-delà d'Arouet, toute la poésie de la Lorraine. Merci à vous deux d'être venus nous parler avec tant d'humour, de distance et de calme d'une situation qui, chacun l'aura compris, est parfois difficile à vivre.
On vous retrouve dans un instant sur Europe 1 et Franck Ferrand, vous répondrez à la question de Marie-Caroline sur la différence entre le sacre et le couronnement.
Elle est sucrée. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est une question de Marie-Caroline via le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Elle vous demande, Franck Ferrand, quelle est la différence entre le sacre et le couronnement?
Alors je pense que si Marie-Caroline est allée voir dans le Larousse ou le Robert, elle a vu que le couronnement est la cérémonie accompagnant le sacre d'un monarque. Voilà ce que nous dit le dictionnaire. Mais en fait, c'est plus complexe que ça. Tous les souverains, par définition, sont couronnés. C'est-à-dire que au moment de leur avènement, on décide d'une date de couronnement et évidemment, ils reçoivent les insignes qui vont symboliser leur pouvoir et leur royauté. Mais seules les monarchies sacrales vont donner le sacre, c'est-à-dire une onction divine. Alors, c'était le cas en France, puisque la monarchie française est une monarchie sacrale. C'est le cas actuellement en Grande-Bretagne. La reine Elisabeth II, que je sache gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, a été sacrée. C'est le cas au Japon aussi, par exemple, où on a une monarchie sacrale. Et puis ailleurs, la quasi-totalité des monarchies dans le monde n'étant plus des monarchies sacrales, on se contente de couronner les souverains. Bonjour Marion Ruggieri.
Bonjour Franck. Qui n'a jamais rêvé de changer de vie, changer de métier, se mettre au vert? Pourquoi on en a tous envie et comment passer du rêve à la réalité? On en parle avec la psychologue Luce Janin de Villard, auteure de Changer de vie, mais aussi avec quelqu'un qui a osé changer de vie, l'ex-avocate Caroline Vigneault, aujourd'hui comédienne et humoriste.
Merci beaucoup Marion et nous nous retrouvons lundi chez Amblin.
À lundi Franck.